Euthydème ou le disputeur. Criton. Socrate, qui était donc cet homme avec qui tu disputais hier dans le lycée? Je m'approchais tant que je pus pour vous ouïr, mais la presse était si grande autour de vous qu'il me fut impossible de rien entendre distinctement. Je me haussai sur la pointe des pieds pour voir, du moins, et il me sembla que celui avec qui tu parlais était un étranger. Qui est-il?
Socrate.
Qui veux-tu dire, Criton? Car il n'y en avait pas qu'un, ils étaient deux. Celui dont je demande le nom était assis le troisième à ta droite. Le fils d'Axiochus était entre vous deux. Il me semble qu'il a bien grandi et qu'il sait à peu près de l'âge de mon fils Critobule. Mais Critobule est délicat, tandis que l'autre est plus formé, beau et de bonne grâce. Celui dont tu me demandes le nom s'appelle Euthydème. Et celui qui était à ma gauche est son frère, Dionysodore. Il était aussi de la conversation.
Je ne connais ni l'un ni l'autre, Socrate.
Ce sont de nouveaux sophistes, à ce qu'il paraît.
De quel pays sont-ils et de quelle science font-ils profession?
Originairement, ils sont, je crois, de là-bas, de Chios. Ils étaient allés s'établir à Thurium. Mais ils se sont enfuis de là et rôdent ici autour depuis plusieurs années. Pour ce qui est de leur science, Criton, elle est admirable. Ils savent tout. Jusqu'ici, j'ignorais encore ce que c'était que les athlètes parfaits. En voilà, grâce à Dieu. Ils excellent dans toute espèce d'exercice. Et ils ne sont pas comme les frères acarmaniens qui ne savaient que les exercices du corps. D'abord, ils sont supérieurs dans ce genre par une manière de combattre qui assure toujours la victoire. Ils savent très bien se battre armés de toutes pièces et l'enseignent à qui les paye. Mais de plus, ils excellent dans les combats judiciaires et enseignent aussi à plaider ou à composer les plaidoyers. Jusqu'ici, leur talent se bornait à ce que je viens de dire. Mais maintenant, ils sont arrivés à la dernière perfection. Et les voilà parvenus dans un nouveau genre de combat à une adresse telle que nul ne saurait leur résister. Ils sont devenus des raisonneurs incomparables. Et quoi qu'on dise, vrai ou faux, ils réfutent tout également. Aussi, Criton, ai-je résolu de les prendre pour maître, car elles promettent de rendre le premier venu aussi habile qu'eux en très peu de temps.
Mais Socrate, ne crains-tu pas l'âge? N'es-tu pas trop vieux?
Point du tout. Et c'est là ce qui m'encourage. Je te dirais qu'eux-mêmes étaient déjà avancés en âge quand ils se sont adonnés à cet art de raisonner que je désire tant apprendre. Il n'y a pas un an ou deux qu'ils l'ignoraient encore. Tout ce que j'ai craint, c'est que je ne fasse honte à ces étrangers comme au joueur de lutte Conos, fils de Métrobe, qui me donne encore des leçons de musique. Les enfants, mes compagnons, se moquent de moi et appellent Conos le pédagogue des vieillards. J'ai peur qu'on aura de même ces étrangers, et qu'à cause de cela, ils ne veuillent pas de moi. Voilà pourquoi, Criton, j'ai persuadé à quelques vieillards de venir apprendre avec moi la musique de Conos, et je tâcherai également de persuader à d'autres de venir apprendre à raisonner. Et si tu veux me croire, tu viendras aussi. Peut-être ne serait-il pas mal de prendre avec nous tes fils comme un appât, car je suis sûr que pour les avoir, ils consentiront à nous instruire.
Volontiers, Socrate, si tu le désires, mais dis-moi auparavant ce qu'enseignent ces étrangers, afin que je sache ce qu'ils nous apprendront.
Je ne te ferai pas attendre, et je ne dirai point que je ne peux le faire faute de les avoir entendus, car je leur ai prêté la plus grande attention et n'ai rien oublié de tout ce qu'ils ont dit. Je vais donc t'en faire un récit fidèle depuis le commencement jusqu'à la fin. Je m'étais assis d'aventure seul où tu me vis, dans l'endroit où l'on quitte ses habits, et déjà je m'étais levé pour sortir quand le signe divin accoutumé me retint. Je m'assis donc de nouveau. Et peu après, Euthydème et Dionysodore entrèrent avec une foule de jeunes gens que je pris pour leurs écoliers. Ils se promenèrent un peu sous le portique couvert, et à peine avaient-ils fait deux ou trois tours que Clinias entra, celui qui te semble, et avec raison, beaucoup grandi, suivi d'un grand nombre d'amants et entre autres de Ctésippe, jeune homme de Péanée, d'un beau naturel mais un peu emporté comme on l'est à son âge. Clinias, dès l'entrée, m'ayant vu seul, s'approcha de moi. Et ainsi que tu l'as remarqué, va s'asseoir à ma droite. Dionysodore et Euthydème, le voyant, s'arrêtèrent. Ils tinrent ensemble une espèce de conseil et de temps en temps jetaient les yeux sur nous car je les observais avec soin. Enfin, ils s'approchèrent et s'assirent. Euthydème auprès du jeune homme et Dionysodore à ma gauche. Les autres prirent place comme ils purent. Je les saluai en leur disant que je ne les avais pas vus depuis longtemps. Et me tournant du côté de Clinias, « Mon cher, voici Euthydème et Dionysodore qui ne se mêlent point de ma gâtelle. Ils ont une parfaite connaissance de l'art militaire.
de tout ce qu'il faut à un bon général pour bien commander une armée, la ranger en bataille et lui faire faire l'exercice. Ils t'apprendront aussi à te défendre toi-même devant les tribunaux si quelqu'un te faisait injure. Euthydème et Dionysodore eurent grande pitié de m'entendre parler ainsi, et se regardant l'un l'autre, ils se prirent à rire. Euthydème s'adressant à moi, « Nous ne nous en soucions plus, Socrate, et ne considérons cela que comme un amusement. » Tout étonné, je lui dis, « Il faut que votre principal emploi soit bien considérable, puisque de telles choses sont des jeux pour vous. Mais au nom des dieux, apprenez-moi quel est ce bel emploi. Nous sommes persuadés, Socrate, me dit-il, qu'il n'y a personne qui enseigne la vertu aussi bien et aussi promptement que nous. Par Jupiter, m'écriai-je, que dites-vous là? Et comment avez-vous fait une si heureuse découverte? Je croyais jusqu'ici, comme je le disais tout à l'heure, que vous n'excelliez qu'en l'art militaire et ne vous louez que par cet endroit, car il me souvient que quand vous vînt ici la première fois, vous ne faisiez point profession que de cette science. Mais si vous possédez encore celle d'apprendre la vertu aux hommes, soyez-moi propice. Je vous salue comme des dieux, et vous demande pardon d'avoir parlé de vous comme je l'ai fait. Mais voyez bien, Othidème, et toi, Dionysodore, si ce que vous dites est vrai, et ne trouvez pas étrange que la grandeur de vos promesses me rende un peu incrédule, sois bien sûr, Socrate, reprit-il, que nous n'avons rien dit qui ne soit vrai. En ce cas, je vous tiens plus heureux que le grand roi avec sa puissance. Mais dites-moi, avez-vous dessein d'enseigner cette science ou quelle est votre intention? Nous ne sommes venus ici que pour l'enseigner à ceux qui voudront l'apprendre. Je vous réponds que tous ceux qui l'ignorent voudront la connaître, moi d'abord, et Clinias, et Ctésippe, et enfin tous ceux que vous voyez ici. Et je leur montrai les amants de Clinias qui déjà nous avaient entourés. Car il faut te dire que Ctésippe s'était d'abord assis fort au-dessous de Clinias. Mais comme Euthydème se penchait en me parlant, il cachait, je crois, à Ctésippe Clinias qui était entre nous deux, et le privait de cette agréable vue, ce qui obligea Ctésippe à se lever et à se placer vis-à-vis de nous pour voir son ami et entendre en même temps la conversation. Aussitôt, les autres amants de Clinias et les amis d'Euthydème et de Dionysodore en firent autant et nous environnèrent. Les montrant donc du doigt, j'assurais Euthydème qu'il n'y avait pas là un seul qui n'eût la volonté de la prendre pour maître. Ctésippe s'y engagea vivement. Tous les autres en firent de même et le prièrent tout d'une voix de leur découvrir le secret de son art. Alors, m'adressant à Euthydème et à Dionysodore, il faut bien, leur dis-je, satisfaire ces jeunes gens, et je joins mes prières aux leurs. Or, il y a beaucoup de choses qui seraient trop longues à expliquer, mais dites-moi, celui qui est persuadé qu'il doit apprendre la vertu auprès de vous, est-il le seul que vous puissiez rendre vertueux? Ou bien, pouvez-vous l'enseigner aussi à celui qui n'en est pas persuadé, parce qu'il doute que la vertu puisse s'apprendre? Dites, pouvez-vous aussi prouver à qui pense ainsi que la vertu peut être enseignée et que vous êtes les plus propres à le faire? Nous le pouvons également, Socrate, répondit Dionysodore. Il n'y a donc personne au monde, Dionysodore, lui dis-je, qui puisse mieux que vous mettre sur la voie de la philosophie et de la vertu? Nous le croyons, Socrate. Vous nous ferez voir le reste avec le temps, mais présentement, je ne vous demande que cela. Persuadez à ce jeune homme qu'il faut se donner tout entier à la philosophie et à l'exercice de la vertu, et vous nous obligerez tous, et moi, et tous ceux qui sont ici présents. Car il se trouve que nous prenons beaucoup d'intérêt à ce jeune homme, et surtout avec passion qu'il devienne aussi bon que possible. Il est fils d'Axiocus, petit-fils de l'ancien Alcibiade, et cousin germain d'Alcibiade d'aujourd'hui. Son nom est Clinias. Il est encore jeune, et nous craignons ce qu'on doit toujours craindre pour un jeune homme, que quelqu'un s'emparant avant nous de son esprit ne lui fasse prendre un mauvais pli et ne le corrompe. Vous ne pouviez donc arriver plus à propos. Ainsi, si rien ne s'y oppose, éprouvez Clinias et l'entretenez en notre présence. Quand j'eus parlé à peu près de la sorte, Euthydème me dit d'un air fier et assuré, « Rien ne s'y oppose, Socrate, pourvu que ce jeune homme veuille répondre. Il y est, dis-je, accoutumé. Ses amis sont presque toujours sur ses pas, l'interroge et cause sans cesse avec lui. Et j'espère qu'il aura bien assez d'assurance pour répondre sans difficulté. Mais comment pourrais-je, Criton, te raconter ce qui suit? Car ce n'est pas peu de chose que de faire un récit fidèle de cette prodigieuse sagesse. C'est pourquoi, avant de m'engager dans cette narration, il faut qu'à l'exemple des poètes, j'invoque les muses et la déesse Mnémosyne. Euthydème commença ainsi, ce me semble. Clinias, ceux qui apprennent sont-ils savants ou ignorants? Le jeune homme, à cette question difficile, rougit et, tout interdit, jeta les yeux sur moi. Voyant le trou où il était, je lui dis « Courage, Clinias, dis hardiment ce qu'il t'en semble. C'est peut-être pour ton bien. » Cependant, Dionysodore, se penchant un peu vers moi, avec un visage riant, me dit tout bas à l'oreille. Socrate, je te le prédis, quoi qu'il réponde, il est pris. » Pendant qu'il me parlait ainsi, Clinias avait déjà répondu, de sorte que je n'eus pas le loisir d'avertir ce jeune homme de prendre garde à ce qu'il dirait. Il répondit que c'était les savants qui apprenaient. « Y a-t-il des hommes que tu appelles des maîtres ou non ?» lui demanda Euthydème. Clinias répondit que oui. « Les maîtres ne le sont-ils pas de ceux qui apprennent ?» Le joueur de lutte, le grammairien, était tes maîtres. Toi et les autres garçons, vous étiez leurs disciples. Il en tomba d'accord. Mais quand vous appreniez, vous ne saviez pas encore les choses que vous appreniez? Non, sans doute. Vous n'étiez donc pas savant quand vous ignoriez ces choses-là? Il le faut bien. Puisque vous n'étiez pas savant, vous étiez donc ignorant. Il est vrai. Vous donc, qui apprenez les choses que vous ne savez pas, vous les apprenez étant ignorant. Le jeune homme fit signe que oui. Ce sont donc les ignorants qui apprennent, Clinias, et non pas les savants, comme tu le pensais. À ces mots, comme un cœur au signal du chef, tous les amis d'Euthydème et de Dionysodore éclatèrent en de grands rires mêlés d'applaudissements. Le pauvre garçon n'avait pas encore eu le temps de respirer, que Dionysodore, reprenant le discours, lui demanda « Mais Clinias, quand votre maître récite quelque chose, qui sont ceux qui apprennent ce qu'il récite? Sont-ce les savants ou les ignorants ?»« Les savants ?» « Ce sont donc les savants qui apprennent, ce ne sont pas les ignorants. Ainsi, tu n'as pas bien répondu à Euthydème. » Aussitôt, voilà de nouveaux éclats de rire et de nouveaux applaudissements de la part des amis d'Euthydème et de Dionysodore qui admiraient leur sagesse. Nous autres, tout étonnés, nous demeurions dans le silence. Euthydème, voyant notre surprise, pour nous donner encore une plus grande idée de sa sagesse, attaque de nouveau le jeune homme et lui demande, donnant à la même chose un autre tour, comme un bon danseur qui tourne deux fois sur la même place. « Ceux qui apprennent, apprennent-ils ce qu'ils savent ou ce qu'ils ne savent pas ?» Aussitôt, Dionysodore me dit encore à l'oreille, « Voilà, Socrate, un autre tour pareil au premier. » Par Jupiter, lui répondis-je, cette première question m'a paru merveilleuse. « Toutes nos questions sont de même nature, Socrate, on ne s'en peut démêler. » Et voilà, lui dis-je, ce qui vous donne tant d'autorité parmi vos disciples. Cependant, Clinias avait répondu à Euthydème que ceux qui apprenaient, apprenez ce qu'il ne savait pas. Euthydème continua de l'interroger de la même manière qu'auparavant. « Sais-tu les lettres ? » dit-il. « Oui. » « Mais les sais-tu toutes ? » ?»« Toutes ? » ?»« Quand quelqu'un récite quelque chose, ne récite-t-il pas des lettres ? » ?»« Assurément. » »« Il récite donc ce que tu sais, puisque tu sais toutes les lettres. » Il en convainc encore. « Et quoi ? N'apprends-tu pas ce qu'on te récite, ou bien est-ce celui qui ne sait pas les lettres qui apprend ?»« Non, c'est moi qui apprends. » « Tu apprends donc ce que tu sais, puisque tu sais toutes les lettres. » Il l'avoua. « Tu l'as donc pas bien répondu, » ajouta Euthydème. À peine Euthydème eut-il cessé de parler, que Dionysodore, reprenant la balle, la renvoya contre le jeune homme, comme le but où il visait. « Ah, Clinias, dit-il, Euthydème n'use pas de bonne foi avec toi. Mais dis-moi, apprendre, n'est-ce pas acquérir la science de la chose qu'on apprend ?» Il l'accorda. « Et savoir ?» Est-il autre chose que d'avoir acquis déjà cette science ? Il convainc au non. Ignorer, n'est-ce point n'avoir pas la science ? Il l'avoua. Qui sont ceux qui acquièrent une chose ? Ceux qui l'ont ou bien ceux qui ne l'ont pas ? Ceux qui ne l'ont pas. Ne m'as-tu pas accordé que ces ignorants sont du nombre de ceux qui n'ont pas ? Il fit signe que oui. Ceux qui apprennent sont donc du nombre de ceux qui acquièrent et non pas du nombre de ceux qui ont. Sans doute. Ce sont donc, Clinias, les ignorants qui apprennent et non les savants.